Eh bien, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir pour moi de se présenter devant vous ce matin, surtout de m'avoir rendu. Je sais pas, mais certains, quelques-uns d'entre vous m'avez vu ce matin, je suis arrivé complètement toute trempe, de la tête aux pieds. Hier soir, j'ai eu la meilleure fausse bonne idée de toute ma vie. Elsa est partie à Québec avec la voiture et j'avais prévu avec Stella de venir avec lui en voiture ce matin. Mais je lui avais dit, si il fait beau, je vais t'appeler samedi, puis je vais venir en vélo. Moi puis Elsa, on s'est acheté des beaux vélos samedi passé, puis il a plu toute la semaine, tu sais, puis je me suis dit, bon, on s'en fait un petit exercice. Puis donc, hier soir, je regarde la météo et là... Ils annoncent des éclaircies avec 20% de probabilité de pluie. C'est quand même des bonnes statistiques. C'est comme 80%, pour être plus positif, de beau temps. Mais faut pas vous fier aux promesses de Météo Média. En fait, c'est pas des promesses. Ce matin, je me réveille, il est 8h30, et là, il pleut, et Stella est déjà partie à l'église. Et j'ai pas de voiture et le transport en commun c'est trop serré, donc faut que j'y aille quand même. Et donc je prends mon vélo, je m'apporte du linge de rechange, sachant que je serai pas très très sec en arrivant. Et là je m'en vais sur la route et puis ça commence. Là je commence, je pédale sur le boulevard Gouin. Là, dès le début il y a une voiture qui vient à côté de moi puis à un moment donné. Il y a une autre voiture qui était stationnée à droite. Et là, tout de suite après, je vois un gros trou d'eau qui apparaît. Et là, à cause de la voiture, je vais dans le trou d'eau. Puis là, tous mes pieds sont mouillés. Mes pieds, ça, vous pouvez regarder, c'est la vérité. Là, il y a les preuves, ils sont encore tout trempés. Et là, saviez-vous qu'il y a aussi des nids de poules pour les vélos? Des fois, là, avec les trous d'eau, je voyais rien. Puis là, bang! Puis là, quoi. Et alors, c'était vraiment, vraiment difficile. Mais par la grâce de Dieu, je suis arrivé. Et... Je me disais ça, Seigneur, par ta grâce, je vais arriver, puis là, je suis là, je reçois ta grâce. Mais là, à un moment donné, j'en recevais beaucoup de la grâce, il y avait plein de pluie qui tombait. Mais, c'est, en tout cas, bref, ne vous fiez pas aux promesses de Météo Média, c'est vraiment, quand ils disent 80% sûr qu'on va vous donner du beau temps, c'est pas vrai, ça peut être très... J'ai pogné le 20%. Mais Seigneur, quand il fait une promesse, lui, c'est pas 80%, 90%, 95%, 99%, c'est 100%. Et puis, ce matin, on va voir une promesse que Dieu a faite à quelqu'un. C'est une promesse super importante parce qu'il y a vraiment une grande envergure, cette promesse-là. Et avant de vous dire c'est qui, saviez-vous que dans le Nouveau Testament, on affirme à quelque part que avant même que Jésus naisse, il y a une personne qui a eu un preview de l'Évangile. Il a pu prévisionner, comme un peu quand on va au cinéma, là, qu'on peut prévisionner les films qui vont arriver plus tard. Il y a une personne dans l'Ancien Testament qui a pu prévisionner l'Évangile. Est-ce que vous savez c'est qui? Hein? Dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament dit qu'il y a une personne qui a prévisionné l'Évangile, qui a vu d'avance. Oui? Non. Une autre personne? Hein? Élie? Dans l'Ancien Testament. Hein? Samuel? Non. Isaïe, Daniel, non? Oui! Hey! Quand j'ai posé la devinette à Elsa, là, elle était en train de sortir tous les noms de la Bible, j'étais découragé. Là. Ça faisait 10 qu'elle disait, c'est comme, ok, on va arrêter. Là. Mais Abraham, ça a été aussi le premier missionnaire. Dieu lui a demandé de quitter son pays pour aller là, dans le pays où il lui montrerait. Donc, c'est le verset que j'ai fait référence à concernant le fait que Abraham a eu comme un prévisionnement de l'Évangile. On va le lire un peu plus tard. Mais pour l'instant, on va lire la promesse que Dieu a faite à Abraham dans les premiers versets du chapitre 12. OK, juste avant, j'ai une map, là, c'est assez embrouillé, mais en bas à droite, où est-ce que la ligne rouge termine, c'est la ville de Our. C'est là que Abraham était avec... non, je pense que c'est juste mon image. C'est vraiment mon image. Donc, c'est là que Abraham vivait avec son père dans sa jeunesse. Et puis, dans les derniers versets du chapitre 11, on dit que il a quitté la ville de Haut pour se rendre à Haran, qui est comme un peu dans la pointe en haut du triangle. Et puis, c'est une fois qu'il est à Haran que Dieu va lui faire la promesse qu'on va lire, et puis qu'il va lui demander de quitter ça, ce pays-là, la maison de son père, pour aller jusqu'en Canaan, qui est un peu plus là, en bas à gauche. J'ai fait une map plus claire. Homemade, mais dans le fond, c'est ça. Deux étapes. Première de Our à Haran, la deuxième de Haran à Canaan. Juste pour vous donner une idée, le premier voyage, c'est 1000 kilomètres. C'est avec toute une maison, dans le fond. Là. On déménage en chameau et en chevaux et tout ça. Et le deuxième voyage de Haran à Canaan, c'est environ 640 kilomètres. Ça devait être des voyages assez périlleux. Je me suis trompé en haut, c'est pas Genèse 1, c'est Genèse 12, 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Père Céleste, on vient devant toi tous ensemble dans le nom de Jésus, et on te demande, par ton esprit, de prendre cet enseignement, ta parole, et de la rendre vivante dans nos vies. Viens illuminer nos cœurs, Seigneur, et viens faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui nous accroche ce matin et qui... nous fait avancer, qui nous encourage, qui nous exhorte, qui nous aide, Seigneur, à être une plus grande source de bénédiction encore pour toutes les nations. Dans le nom de Jésus. Amen. OK, donc là, j'aurais une petite vidéo pour vous, mais avant, je veux juste un peu souligner quelques éléments là, du texte qu'on vient de lire. Le premier verset, on parle vraiment de l'appel de Dieu. Ça, c'est la part qu'Abraham est appelé à jouer. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Tu es le premier missionnaire, Abraham, et il est appelé à déménager, aller dans une nation qu'il ne connaît pas. Le verset 2 et la première partie du verset 2 et la première partie du verset 3, c'est ce qu'on appelle la promesse personnelle que Dieu fait à Abraham. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Ça, c'est des promesses personnelles que Dieu adresse spécifiquement à Abraham. Mais ce n'est pas une finalité, ça, c'est plus un moyen. Parce que regardez la fin de chacun de ces versets-là. Deviens donc une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, il y a l'appel, il y a la promesse personnelle et il y a la promesse universelle. Par Abraham, Dieu veut bénir toutes les nations. J'ai une petite vidéo que j'aimerais vous montrer. C'est une vidéo que j'ai vue à Cara. C'est le tout premier vidéo que j'ai vu dans ma formation à Calgary. Et puis, ça va vous donner un petit goût de comment inspirant ça peut être. Et aussi, je pense que c'est une vidéo qui réussit à nous communiquer l'amour de Dieu pour toutes les nations. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui reflète la nature de Dieu dans la diversité culturelle. J'en ai déjà parlé, mais tu sais, on a un Dieu trinitaire, un Dieu qui est un, mais qui a trois personnes en lui. Donc, la diversité, c'est quelque chose qui honore Dieu. Et puis, c'est une petite vidéo que je vais vous montrer qui, j'espère, va vous inspirer. Ouais.
Thank you.
Ça, c'est wow, hein? Ça, c'est un vrai wow. Ça, quand je l'ai vu ça, moi, c'est comme un avant-goût de ce que ça va être aux cieux. Hein. Ça dit dans l'Apocalypse qu'il va y avoir tous les peuples de toutes les tribus, de toutes les nations, de toutes langues vont être là, vont être représentés aux cieux. Et ça, c'est garanti par la promesse que Dieu a faite à Abraham. Toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre vont être bénies en toi. Et waouh, moi ça me donne des frissons. C'est vraiment un beau vidéo. Donc, pour bien comprendre cette promesse-là, il faut considérer ce que Dieu faisait dans les 11 premiers chapitres de la Genèse. Dieu avait une approche qui est différente qu'il a du chapitre 12 jusqu'à l'Apocalypse. Dans les 11 premiers chapitres de la Genèse, Dieu interagit directement avec les êtres humains comme un tout. Dieu n'utilise pas d'anges, Dieu n'utilise pas d'autres intermédiaires, mais il interagit directement avec les gens qu'il veut. Et on le voit par exemple d'être dans le jardin d'Éden quand tout est parfait. Après la chute, Dieu fait lui-même des habits de peau à Adam et Ève, puis il va les vêtir. Même Caïn, qui est un meurtrier, après Dieu va s'adresser directement à lui, puis il va mettre un signe sur lui pour le protéger. Pareillement, au chapitre 6 de la Genèse, Dieu décide de juger le monde entier, puis il choisit une personne juste pour recommencer l'humanité. Mais c'est toujours dans les 11 premiers chapitres de la Genèse, c'est toujours Dieu qui interagit directement avec les êtres humains. Mais au chapitre 12, il se passe quelque chose de nouveau. Dieu désire utiliser un agent, un intermédiaire. Dieu choisit quelqu'un pour agir dans le monde au travers de lui. Le texte qu'on a lu disait « Deviens donc une source de bénédiction ». On va relire le texte, mais en français courant, on va le voir, c'est encore plus évident. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je vais te montrer. Je ferai naître de toi un grand peuple, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. » Abraham s'en va comme le Seigneur l'a commandé et son neveu Lot part avec lui. Donc, chapitre 12, c'est nouveau, Dieu veut agir par quelqu'un. Alors que dans les 11 premiers chapitres, il agissait tout seul directement. Et le choix de Dieu ici, c'est la base de l'élection. Il y a toute une doctrine dans la Bible qu'on appelle l'élection. Et ça, c'est le texte, on pourrait dire, fondateur de l'élection. Et on voit dans ce texte-là que, je me devance un petit peu, mais c'est pas grave, que l'élection n'a pas pour but premier le salut, tout simplement. Mais c'est d'abord, c'est pas seulement un privilège, c'est ça, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est une responsabilité. Dieu veut se servir de certaines personnes pour amener le salut aux autres. J'aimerais qu'on lise deux passages du Nouveau Testament qui vont dans ce sens-là. Il y en a un que je connais par cœur, c'est Jean 15, verset 16, qui dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Donc, pourquoi il nous a choisi pour être sauvés? C'est pas ça que ça dit. C'est sûr que c'est ça que ça implique. Donc, on est porteur du salut, mais c'est pour aller et porter du fruit, donc apporter ce salut-là aux autres nations. L'élection concerne la responsabilité de transmettre les bénédictions de Dieu, d'être missionnaire. Un autre texte que vous connaissez probablement dans le Nouveau Testament, c'est dans 1 Pierre. Où est-ce que j'ai mis ça? Je vais essayer de le trouver rapidement, mais c'est où est-ce que ça dit que vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple élu, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé. Donc, on est choisi pour quoi? Pour annoncer. On est choisi pour apporter cette bonne nouvelle-là à d'autres personnes. et pour les amener à entrer éventuellement dans une relation avec Dieu. Est-ce que vous vous souvenez de la plupart des prédications que vous avez entendues dans les nombreuses années que certains d'entre vous avaient été chrétiens? Probablement pas. Mais si vous vous rappelez d'une des centaines des prédications que peut-être vous avez entendues, c'est probablement que le Saint-Esprit vous parlait à ce moment-là, right? Et moi, je me souviens d'une prédication que j'ai entendue dans ma première année de vie chrétienne, quand j'étais à Rouyn-Noranda. Le pasteur prêchait sur Esther, le livre d'Esther. À un moment donné, dans ce livre-là, pour vous mettre en contexte un petit peu, là, dans le livre d'Esther, le peuple juif risque d'être annihilé, d'être éradiqué. Il y a des personnes dans le gouvernement qui complotent justement pour les éliminer tous. La femme du roi, c'est une juive, c'est Esther. À un moment donné, il y a son oncle informe Esther que il y a justement ce complot-là pour éliminer tous les Juifs. Et là, Esther, dans le fond, est hésitante d'aller vers le roi pour lui demander d'épargner son peuple puis de rectifier, dans le fond, cet édit qui avait été lancé. Elle est hésitante parce qu'elle n'a pas le droit de se présenter devant le roi à moins qu'il lui ait donné le signe. Sinon, elle peut mourir. Elle risque la mort. Si elle décide simplement de rentrer dans le palais royal pour aller discuter de quelque chose avec le roi, il peut juste dire, ben, on te tue. Je t'ai pas demandé, puis c'est comme ça. Et là, elle partage un peu sa préoccupation à son oncle. Et là, Mardoché lui répond ceci. Si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'ailleurs pour les Juifs. Si toi, tu dis pas un mot, Dieu va susciter une autre personne pour sauver les Juifs. C'est sûr que Dieu ne laissera pas son peuple être anéanti. Puis si c'est pas toi qui veux être l'outil dans ses mains pour sauver son peuple, il va utiliser quelqu'un d'autre. Et là, le prédicateur avait dit, si vous voulez pas être utilisé par Dieu, Dieu va se servir de quelqu'un d'autre. Et je me souviens quand il avait dit ça, là, ça avait comme cherché mon cœur. C'était comme, Seigneur, moi, je veux être utilisé par toi. Je veux que tu te serves de moi pour la mission. Je veux avoir ce privilège-là. Et je me souviens que le Seigneur avait vraiment comme saisi mon cœur à ce moment-là. Mais c'est un peu ça ici aussi, hein. Abraham a l'opportunité d'être l'outil entre les mains de Dieu pour bénir toutes les nations. Pas juste pour recevoir des bénédictions. Ça comporte ça. Mais c'est afin de, c'est un moyen, c'est pas une fin, les bénédictions. C'est vraiment quelque chose que Akaros on nous a enseigné avec insistance. On a cloué le clou longtemps, là, on a tapé. On a fait la distinction entre les promesses personnelles et les promesses universelles. Et toutes les fois, ou pratiquement toutes les fois dans la Bible qu'on parle des promesses personnelles, c'est en vue de promesses universelles. J'aimerais vous donner quelques exemples. Tournez avec moi dans le psaume 67. On va lire les premiers versets du psaume 67. Que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous bénisse. Qu'il fasse briller sur nous sa face. Verset 3. Pourquoi? Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Wow. Fait que la bénédiction sert à quoi? On prie que tu nous bénisses, fais briller sur nous ta face. Ça veut dire que par ta présence dans nos vies, on puisse vraiment briller, qu'on puisse vraiment être comme incomparable, qu'on puisse jouir de toutes tes bénédictions, mais afin que les autres voient la différence, afin que les autres voient que tu es Dieu et qu'ils soient attirés à toi. Et là, tout le long du chapitre, je pourrais continuer quelques versets, c'est vraiment l'emphase sur la promesse universelle. Les peuples te célèbrent, ô Dieu, tous les peuples te célèbrent. Les foules se réjouissent et triomphent, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les foules sur la terre. Les peuples te célèbrent, ô Dieu,
tous les peuples te célèbrent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Peut-être juste un autre, parce qu'il paraît qu'il y a 395 références comme ça à l'Alliance abrahamique. Dieu nous bénit pour qu'on bénisse les nations. 395. Fait que je vais être gracieux avec vous aujourd'hui, je vais juste vous en parler deux. C'est bon? Ah, peut-être un troisième, là. OK, le deuxième, on va aller dans le Nouveau Testament. 2 Corinthiens 9, on va lire les versets 7 à 12. Corinthiens 9, 7 à 12. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Première partie du verset 8, c'est quoi? C'est quelle sorte de promesse? Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours à tout égard de quoi satisfaire vos besoins. Ça, c'est quelle promesse? Personnelle, exactement. Afin que ça se transforme en quoi? Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. On va lire le verset 9. Selon ce qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il l'a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Encore une promesse. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards en vue de toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. Voyez-vous les promesses personnelles, après ça, toujours suivies. Pourquoi? Pour être pour la promesse universelle, pour qu'on soit le moyen pour qu'on bénisse une multitude autour de nous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé à Calgary, au travers du cours Kairos. C'était comme « wow ». C'était vraiment une réalisation. Là. C'est comme vraiment, le Seigneur est venu changer ma façon même de voir les Écritures en voyant que il y a toujours ce va-et-vient entre promesses personnelles, promesses universelles, et nous, moi, vous, Abraham, et même le peuple d'Israël, on est les moyens, on est le par qui toutes les nations de la terre sera bénies, on est l'intermédiaire. Donc, c'est à nous de répondre avec foi comme Abraham C'est en répondant avec foi et obéissance, comme Abraham, que non seulement on va être de plus en plus bénis, mais on va voir de plus en plus Dieu à l'œuvre par nous, dans notre entourage. Et c'est là que vraiment la vie chrétienne devient excitante. Et on a vu plein d'autres vidéos, là. C'était tellement inspirant de voir ça. On est ressorti de là, gonflé à bloc. C'était vraiment... on était comme passionnés pour la mission. Et puis j'espère vraiment réussir à vous transmettre cet amour, cette passion pour la mission, pour les nations. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert, qui est dans le cœur de Dieu. C'est vraiment la priorité numéro un de Dieu. Et ça me redonnait un fardeau complètement nouveau pour ça. Et même... On va en discuter un petit peu plus, là, mais pour les peuples les moins atteints aussi. Une citation sur l'élection, comme je disais tantôt. L'élection n'est pas premièrement un privilège, bien que ça en soit certainement un, mais une responsabilité. Ça veut dire choisi pour accomplir une tâche, être un instrument choisi par lequel Dieu va accomplir sa mission de bénédiction universelle. L'élection vise fondamentalement la mission. Nous sommes choisis non pour que nous profitions du salut seul, mais afin que nous soyons le moyen pour Dieu d'apporter son salut aux autres. Et on a lu les deux passages que j'ai mis en référence. Fait que, ouais. Promesse personnelle en vue de la promesse universelle. Gardez ça à l'œil quand vous lisez votre Bible. Essayez de voir les promesses que Dieu a pour nous, puis essayez de regarder le contexte autour. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose de plus grand que moi à travers de ça? Puis est-ce qu'il y a une invitation à tout simplement marcher par obéissance pour me joindre à Dieu dans son projet de bénir toutes les nations? Dieu aurait pu utiliser un moyen plus efficace s'il aurait voulu. Il aurait pu utiliser des anges, des visions, etc. Il aurait pu se révéler lui-même à chacun d'entre nous, mais il décide de faire ça plus subtilement, plus doucement, je dirais, pour que j'imagine qu'on ait une certaine liberté là-dedans, un certain que tous ceux qui entendent la bonne nouvelle puissent vraiment avoir l'espace, je pourrais dire, pour dire oui ou non. Et c'est une manière vraiment douce que le Seigneur utilise pour gagner nos cœurs. Il veut non pas nous l'imposer du haut, mais susciter en nous un amour pour lui. Et pour ça, il décide de prendre des vaisseaux, si on veut, des moyens plus discrets comme en passant au travers de nous. Et c'est un privilège vraiment qu'on a à ce niveau-là. Que veut dire bénir? Des fois, on utilise beaucoup les mots bibliques ou dans l'Église, etc. Puis, on ne réfléchit pas vraiment au sens qu'ils ont. Et j'ai demandé ça à Esther. Esther, qu'est-ce que ça veut dire bénir? Puis, elle était là, je ne sais pas. Puis, elle dit, je donne ma langue au chat. Puis, elle dit, quoi ça veut dire, toi, selon toi? Je ne sais pas. OK, on continue. Non, c'est pas vrai. J'ai dit, ben, moi, je trouve que bénir, ça ressemble à bonheur. Je sais pas, juste au niveau de l'étymologie. Et puis, bénir, c'est comme souhaiter le bonheur de, c'est comme invoquer des forces ou le bonheur sur quelqu'un. Souhaiter le bonheur. Et au même titre, malédiction, par exemple, ça ressemble à malheur. C'est souhaiter le malheur de quelqu'un. C'est espérer qu'il y ait des choses qui arrivent qui va le rendre vraiment malheureux. Et on est appelé à œuvrer au travers les nations pour leur bonheur. Et on va lire les versets au tableau. Galates 3, 8 à 9 et Actes 3, 25 à 26 reprennent l'alliance abrahamique et va définir en quoi est la bénédiction. Et c'est là qu'on va voir que Dieu avait dit à quelqu'un que Dieu avait dit que quelqu'un a eu en prévisionnement la bonne nouvelle. Donc, Galates 3, 8 à 9. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Je l'avais au tableau, j'ai oublié. Donc, aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est le mot évangile. A d'avance annoncé cet évangile à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. Et quelle est cette bonne nouvelle que Paul prêchait? Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts et qu'il a vaincu le péché, qu'il, par son esprit, nous donne le pouvoir sur le péché, la capacité de vivre librement par rapport aux forces du mal et de vivre en relation avec Dieu, réconcilier avec lui, réconcilier les uns avec les autres. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est la promesse de bénédiction que Dieu avait faite à Abraham et que nous sommes maintenant appelés aussi à transmettre. Un autre passage qui parle aussi d'Abraham et de cette alliance, Actes 3, 25 et 26. « Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec vos pères, en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. C'est à vous, premièrement, que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. » Un sermon que Pierre fait aux Juifs. Et il fait appel à la promesse de Dieu qu'il allait bénir toutes les nations. Et qu'est-ce que la bénédiction? Le verset 26 le dit. C'est à vous que premièrement, Dieu, après avoir suscité son serviteur, Jésus, l'a envoyé pour vous bénir. La bénédiction ultime, c'est le Seigneur Jésus. C'est cette relation intime qu'on a avec Dieu en Jésus. C'est par lui qu'on est capable de connaître qui est Dieu. Il est venu nous révéler Dieu, il est venu nous détourner de nos iniquités. Et ça, c'est la bénédiction que les Juifs étaient premièrement destinés à recevoir, et être, pas juste recevoir comme c'était juste pour eux, recevoir pour être les missionnaires qui allaient venir vers les nations, mais ils ont refusé d'être l'agent par lequel Dieu allait annoncer cet évangile-là. Donc, Paul dit, vous voulez pas que Dieu vous utilise? C'est bon, moi je m'en vais directement aux nations. Et c'est les nations maintenant qui vont recevoir cet évangile et s'évangéliser un peu entre elles, si on veut. Mais Dieu garde toujours un reste et certainement, c'est pas tout le peuple juif, Dieu merci, qui l'a refusé, mais la grande majorité, malheureusement, c'est le cas. Donc, c'est ça. Bon, OK, un peu d'action là, je veux pas trop vous endormir. On va faire un quiz et là, ça va marcher à main levée, OK? 10 questions que j'ai été chercher sur le site web Joshua Project, qui est un site web qui vise à déterminer où est-ce qu'on est au niveau du grand mandat? Où est-ce qu'on est au niveau du grand mandat? Quels sont les peuples qui n'ont pas encore entendu l'Évangile ou qui n'ont pas accès dans leur culture, dans leur nation, dans leur tribu à l'Évangile? Donc, sur ce site web-là, il y a 10 questions. J'ai fait le test. J'ai eu, devinez combien? En pourcentage. 80, j'ai eu 61%. J'ai changé peut-être 2 ou 3 questions parce que ça ne se faisait pas bien à l'assemblée, là. Ça a été chaotique. Mais bon, au moins j'ai passé. On va voir si vous allez passer. Et là, il y a 2 équipes, fait qu'une compétition, là, c'est à main levée. All right? OK. Première question. Vers la fin de son passage sur terre, Jésus dit A. Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. B. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. C. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. D. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Bon, OK. OK. Tout le monde lève leurs mains quand que vous pensez que c'est la bonne réponse, puis je vais voir à peu près là, c'est qui, là, comme si vous avez majoritairement, comme vous êtes d'accord sur un point ou pas, puis je vais. OK. Et qui dit que c'est A? Ah oui, vas-y. Ah, il y a peut-être une pogne. Ah, OK, est-ce que c'est A? B? C? OK, D? Ah, ils sont... Puis est-ce que quelqu'un dit quelque chose d'autre? Vas-y. Tu dirais-tu ces versets-là? OK, un point pour l'équipe de gauche. Ah, mais il fallait le dire en premier, c'est une compétition, je vous ai... Oui, mais j'ai posé la question à la fin. Ah. Hein? Tous ces versets-là... Ah. OK, c'était la seule pogne, Je veux pas faire de controverse ce matin, je veux pas qu'il y ait d'animosité. Mais je vais donner le point à l'équipe de gauche et va falloir que je vous rappelle à l'ordre déjà, là. On s'amuse trop. Faut pas s'amuser à l'église. Non, c'est bien. Donc, Jésus a dit toutes ces choses-là. Puis, dans le fond, les quatre évangiles ont la même phrase à peu près à la fin. C'est comme allez, faites la mission envers toutes les nations. Puis il y en a un qui est dans Actes, là, mais. Les 4 évangélistes ont tous eu ce message-là. C'est clair que Jésus l'a donné à la fin, puis c'était quelque chose d'important. Quelqu'un veut la main? OK. All right. Bon, 1-0 pour l'équipe de gauche. OK. Oui, ça dépend de quel côté. Hein? Quand Jésus a dit de faire des disciples de toutes les nations, par nation, il voulait dire A, pays, B, langue, C, ethnie, D, région, et E, religion. OK, qui dit A? B? C? D? Et E? Oui, c'est un petit peu dur, mon affaire. Peut-être que je devrais dire la première des équipes. F? Non, il n'y a pas de point. Je vous ai dit, c'était la seule au début. Mais... OK. C'est la bonne réponse, c'est C, ethnie. Qu'est-ce qu'une ethnie? C'est la prochaine question. Ouais. OK. La prochaine fois, parce que je me rends compte que lever tout le monde la main, c'est à peu près tout le temps égal. C'est pas vraiment une bonne façon de discriminer. La première personne d'entre vous qui lève la main, je vais vous donner la réponse, OK? Fait que là, on est rendu à la question 3. Un groupe ethnique peut être défini par sélectionner tout ce qui s'applique. Oh. La langue et le groupe d'âge. La langue, la religion et la culture. La langue, les classes sociales, niveau économique et les barrières géographiques. Cathy. Ouais, c'est ça. Fait que dans le A, c'est le groupe d'âge qui n'a pas rapport. Dans le C, c'est les classes sociales, le niveau économique, ça n'a pas rapport non plus. Mais les barrières géographiques, par exemple, c'est bon. Ça peut... Hein? C'est 2-1, je pense. OK, 4. Environ combien de groupes ethniques différents y a-t-il dans le monde? Cheryl? Oui, c'est ça. Il y a 16 600 différents groupes ethniques dans le monde. Ça m'étonne que vous n'ayez pas essayé B. OK. Donc là, c'est rendu 3-1, je crois. Question 5. Un groupe ethnique non atteint est défini comme un groupe où il n'y a pas de missionnaires, de chrétiens ou d'église. Vrai ou faux? Ou mélange des deux? Ou C, mais avec une tendance plus vers le B? J'ai le tour de compliquer des vrais et faux, hein? Vas-y. Oui. Ah, vrai? C'est faux. Oh! Puis là, je vais donner le point à l'autre équipe, fait que c'est 3-2. Ah! Ah! Ils ont le mérite d'avoir réfléchi plus longuement. Donc, un groupe ethnique non atteint, c'est un groupe où est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de chrétiens pour annoncer l'évangile à leur propre groupe ethnique. Il n'y a pas assez de ressources pour le faire. Donc, il peut y avoir des missionnaires, il pourrait y avoir même une petite église où il pourrait y avoir... c'est quoi l'autre? Un groupe ethnique? Ouais, ben c'est ça. Ou une église, comme je dis. Mais ils sont insuffisants pour réussir à annoncer eux-mêmes l'évangile à leur propre groupe ethnique. Question 6. Il y a moins de 1000 groupes ethniques non atteints. C'est faux. Un petit facile. 3-3. Il y a... Il y en a combien? C'est ma prochaine question? Non. Il y en a combien? Il y en a... Je ne vais pas le dire au cas où que je l'ai dans les prochaines questions, mais au pire, je le dirai tantôt si c'est pas là. OK. Donc, c'est 3-3. C'est chaud. C'est chaud. Plus de 85% des groupes ethniques non atteints sont dans la fenêtre 10-40, qui est ceci, les parallèles. Ah ouais, ben là, je me suis retourné, puis les deux, faites roche, papier, ciseaux en vous deux, là. Roche, papier, ciseaux. 1, 2, 3, go. OK, c'est vous autres. C'est quoi tu dis? C'est vrai, c'est ça. 4-3. OK. Huitième question. Quel est le groupe ethnique le plus grand encore non atteint? A. Les Japonais. B. Les Secs. En tout cas, je sais pas si on dit ça comme ça, sûrement pas. Les Chèques. J'ai la misère avec mes H. Bangladesh. Hakka en Chine. Les Brahmanes en Inde. Ou les Québécois? La quantité du peuple. Ah, oh boy, là, c'est difficile. Là. OK, attendez, c'est 4-3, là. Ben, je vais laisser la chance de ce côté-là. C'est qui a levé? Ben, eux aussi, il y avait... OK, vous avez plus de main levée, vous, ce côté-là? OK, bon, vas-y, Cathy, parce qu'il n'était pas convaincant. Non, c'est pas...
Ben là, c'est pas vrai ou faux. Tantôt, un vrai ou faux, c'est comme, c'est sûr que si c'est pas vrai, c'est... Ouais, mais là, les autres, c'était vraiment des blagues, là. Non, non, vous avez pas encore la bonne réponse. Fait que c'est quoi? Vous avez... Ça... OK, bon, il va avec D? D, c'est pas ça. Je donne encore la... Un peu. C'est quoi? Wow, wow, se calme. Hélène? C'est pas ça. OK, dernière chance. OK, c'est pas A. Vous avez pas de point pour lui. C'est B. C'est les sectes en Bangladesh. Il y a 128 millions de personnes dans ce groupe ethnique-là. Et il y a 0% de chrétiens. Il y a personne là-bas. Si les gens veulent, ils n'ont aucun ami, aucune personne qui peuvent aller voir pour entendre parler du Seigneur Jésus. 128 millions. Comment ça? C'est une bonne question. Probablement qu'il y a des missionnaires, mais au niveau des... Ah ouais? Ah ouais? OK. Mais est-ce qu'ils sont... Ouais, ouais, c'est ça. Puis est-ce qu'ils sont auprès de ce... Est-ce qu'ils sont... Oh. Ouais. Ouais, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de personne de ce groupe ethnique-là qui... Ouais, il y en a, mais c'est en bas de 0,1%. Et il y a des missionnaires, oui, au Bangladesh, mais est-ce qu'ils sont particulièrement auprès de ce groupe ethnique-là? Peut-être pas non plus, parce que dans un même pays, il peut y avoir beaucoup de groupes ethniques. Donc, c'est pas nécessairement auprès d'eux qui sont là. Mais sûrement qu'il y a des missionnaires auprès d'eux. Fait que là, c'est égal, hein, je crois. Ou c'était quoi les points? C'est ça, mais là, c'était 4-3 pour un de vous deux. OK. OK. Combien de groupes ethniques y a-t-il au Canada? 79, 125, 245, 666. Ah. Oui, c'est ça. Donc là, c'est 5-3. Oui. On va attendre. OK, dernière question. Combien de groupes ethniques non atteints y a-t-il au Canada? 0, 25, 41, 159. Oui? Non. Oui. Bon, mais si je compte bien, je pense que ça a fini serré. De leur groupe ethnique, dans leur propre culture qui peut. Il n'y a pas de personnes dans leur propre groupe ethnique qui sont là suffisants pour annoncer l'Évangile à leur peuple. Hein? Ouais. Exactement, ouais, c'est ça. OK, deux mains levées, je vais les... Vas-y. Il y en a plusieurs, là. En fait, si vous voulez la liste, vous allez sur le site web Joshua Project et il y a toute la liste. Vous allez sur le Canada, puis vous allez pouvoir voir toute la liste. Il y a, comme par exemple les Punjabi au Canada, ils sont vraiment nombreux. Ils sont des centaines de milliers. Enfin, il y a des millions. Ça ne marcherait pas. Des centaines de milliers au Canada, les Punjabi. Et il y a pratiquement aucun chrétien dans leur groupe ethnique. Donc, même si, oui, il y a plein de chrétiens autour d'eux, il y a personne dans leur propre culture qui peut annoncer l'Évangile. Et Brigitte? Non, ben c'est plus ou moins...
Ben, dans le fond, je vais juste pas trop m'attarder sur le quiz, là. En Inde, là, c'est pas vraiment le voodoo, je pense plus que c'est l'hindouisme. Voodoo, peut-être plus comme, par exemple, en Haïti, je sais que c'est présent, là. Ouais, c'est ça. Fait que l'Inde, c'est plus l'hindouisme, le bouddhisme aussi. Bon. Ça, c'est l'objectif final. Apocalypse 21, 23, 26. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Un peu comme la vidéo tantôt, là, c'était beau de voir ça, là, les différentes danses, les différents accoutrements dans la nouvelle terre. Les cultures vont encore avoir leur place, les différences vont encore avoir leur place. C'est quelque chose de beau, la diversité, ça reflète Dieu. Et puis, à la fin, on va encore voir ça, les nations. Et on entend souvent parler de le grand mandat ou la grande commission. L'autre fois, je vous ai présenté ça comme le grand besoin en parlant de Romains 9, je crois qu'il dit que la création entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est la grande promesse. C'est une promesse que Dieu a faite. Puis Dieu tient à 100% ses promesses. Il l'a promis à Abraham, il l'a répété souvent, souvent, souvent dans toute la Bible. Les nations, c'est dans le cœur de Dieu depuis le tout début. Et il n'y aura pas au ciel une nation qui va manquer. Il n'y aura pas un groupe ethnique qui va manquer. Donc, l'appel pour chacun d'entre nous et pour nous en tant qu'Église, c'est d'être l'outil entre les mains de Dieu pour apporter cette bénédiction-là qui est le Seigneur Jésus à chacun d'entre eux. Et ça peut prendre plusieurs formes. Je suis persuadé que beaucoup d'entre vous faites plein de petites choses déjà. Moi, la formation que j'ai prise à Calgary m'a montré que je peux faire encore plus, je peux faire encore mieux, et je souhaite qu'en tant qu'Église, on puisse qu'il y ait un zèle grandissant qui nous anime, puis qu'on fasse encore plus, qu'on fasse encore mieux. Et puis, c'est en vivant en fonction de la priorité absolue de Dieu que je pense qu'on va vraiment le voir agir, qu'on va vraiment être béni, puis qu'on va voir des grandes choses se passer. Amen. Ouais. Je vais juste terminer en prière, puis j'ai invité le groupe de louanges à s'avancer. Père Céleste, je veux te remercier pour ton cœur, pour toutes les nations. Quand on peut lire la parole, des fois dans l'Ancien Testament, on peut avoir la fausse impression que tu es le Dieu seulement du peuple d'Israël, mais on le voit, Seigneur, on l'a vu ce matin, tu as à cœur toutes les nations. Tu nous avais à cœur, chacun d'entre nous, peu importe de où on vient, et tu as encore à cœur, Seigneur, une foule de personnes qui ne peuvent pas entendre parler de l'Évangile, Seigneur, malheureusement. Il y a personne qui, dans leur propre culture, ou presque personne, qui sont là pour leur annoncer, Seigneur. Puis on te demande d'envoyer des missionnaires. Seigneur, je pense aux Marinos qui ont à cœur, Seigneur. J'ai tellement un fardeau depuis que j'étais à Cara. Je te demande de les bénir. Seigneur, je te remercie pour la porte que tu as ouverte pour eux. Et Seigneur, on te demande de les préparer durant cette année pour qu'ils soient prêts, Seigneur Dieu, à passer en cette nouvelle étape, Seigneur, et aller vers les peuples, un peuple moins atteint, Seigneur. Et on te demande une bénédiction spéciale sur eux, une onction spéciale, une protection, et que tu puisses, Seigneur, leur donner tout le soutien nécessaire pour qu'ils puissent aller, Seigneur. Et qu'en tant qu'Église, on puisse supporter, qu'on puisse tous s'encourager les uns les autres à prendre ça à cœur, puis à toujours faire mieux et plus. Puis on te demande que ton esprit fasse ça en nous, Seigneur. Que ce soit par ta force, que ce soit par toi qu'on le fait. Parce que c'est là que ça va porter du fruit qui demeure. Et Seigneur, merci pour ta promesse, Seigneur, tes promesses. Dans le nom de Jésus. Amen.